écrit dans mon avant-propos, le document que je vous ai distribué appartient au cinquième chapitre de ma thèse. Ma thèse, intitulée « In the Red and in the Black, Bankruptcy, Debt Imprisonment and the Culture of Credit in Post-Revolutionary France », porte sur la faillite et le contraint parcours en France au XIXe siècle et, plus généralement, aborde l'histoire culturelle et sociale du crédit et de la dette commerciale pendant cette époque. Comme on voit par la curieuse couverture et le sujet, c'est un projet assez ambitieux qui ne cherche pas à fournir une histoire détaillée ni de la faillite ni de la contrainte parcours, mais plutôt une analyse des changements d'attitude sur les crédits commerciaux dans l'optique des lois qui régissaient la dette. Dans ma thèse, je demande pourquoi le contrainte parcours qui a été considéré si important en 1797 au moment de son rétablissement parce que bien sûr il a été aboli pendant la Révolution, est enfin supprimé en 1867. La faillite, autre manière de traiter les dettes, a aussi subi des modifications importantes depuis la Révolution pour devenir de plus en plus considéré comme un effet inévitable d'une économie commerciale plutôt qu'une faute grave d'un commerçant insolvant ou malhonnête. Mes chapitres sont organisés par thème, mais ils sont en même temps plus ou moins chronologiques. Donc, après un chapitre qui traite de la reformulation des lois commerciales pendant le Directoire et le Premier Empire, je continue avec les chapitres sur la fonction des poursuites judiciaires dans l'économie du crédit commercial au XIXe siècle, les problèmes d'emprisonnement pour dette face à une époque de réforme carcérale, et après, j'ai 10 chapitres sur la faillite et la banqueroute, y compris le chapitre sur Vignanet. Donc, c'est un sujet très, très général, tu vois. Quelques mots sur ce chapitre lui-même. J'ai trouvé les procès de Vignanet parmi les factions à la Bibliothèque nationale. Ces textes ont piqué ma curiosité et je me suis décidée d'écrire une micro-histoire de cette faillite. Heureusement, en plus de quelques centaines de documents judiciaires à la Bibliothèque nationale, j'ai pu consulter les papiers personnels du banquier Isaac Curé aux Archives nationales du monde du travail, dont 22 cartons étaient complètement consacrés aux papiers de la faillite de Vignanet. C'est vraiment impressionnant. Aussi, j'ai vu le journal des Rouvrons numérisé par les archives départementales de Seine-Maritime. Cette richesse rare de sources m'ont permis de construire une histoire d'une faillite et le procès auquel elle a donné lieu d'une manière plus détaillée que ce qui a été fait ailleurs. Comme je vous ai déjà dit, les documents que vous avez lus n'est qu'une partie du brouillon du cinquième chapitre. Le chapitre précédent, c'est-à-dire le quatrième chapitre, décrit les difficultés légales en traitant la faillite des compagnies. La faillite, selon le code de commerce, était basée sur la personne du failli lui-même. Avec la croissance de sociétés beaucoup plus complexes, plus grandes et plus anonymes, la responsabilité de gérance est devenue plus dispersée. Le problème suivant, le 16e, décrit la situation en 1848, quand l'Assemblée nationale a provisoirement adopté un système de liquidation judiciaire et l'abolition de la contrainte parcours. Donc, avec le chapitre des Vignanet, qui abordera la différence entre la faillite et la banqueroute, j'espère faire le lien entre ces deux chapitres. Quant à ce chapitre lui-même, je soutiens deux arguments différents. Premièrement, je cherche à utiliser cette histoire pour poser des questions sur les liens entre les relations sociales et les relations financières. Quoiqu'on parle toujours du crédit comme basé sur la confiance, je me demande si on a assez réfléchi à ce qui veut dire ce mot confiance. Dans le cas de Vignanet, on voit très clairement comment les relations sociales, y compris les amitiés et les liens de sang, ont créé en même temps les liens du crédit. Mais il y a une tendance marquée dans l'historiographie de prétendre que cette confiance est toujours quelque chose qui lie les individus indépendamment de la loi, mais pas contre la loi. En fait, le crédit est présumé dans une manière toujours honnête. qu'est-ce qu'on peut dire, par contre, des relations entre guillemets et ses correspondants? Le problème du crédit, basé sur des relations douteuses, question tellement importante au niveau légal, est traité simplement comme défaillance du système ou au niveau du discours, comme par exemple comme crédit fictif. Bien sûr, les situations chez les banques guyanaises n'est pas typique, mais en même temps, il me semble que la frontière entre les relations du crédit honnête et frauduleuse n'est pas si claire. Pour aller plus loin avec cette idée, je parle un peu dans mon exposé de l'idée de risque et de honneur marchant sur le marché de juillet. C'est une thème que j'espère développer davantage dans le reste du chapitre. Est-ce que Guyanais était coupable de banqueroute ou a-t-il seulement fait faillite? Est-ce que François Guyanais et ses correspondants agissaient criminellement ou pas? Ces questions étaient, comme on voit, assez difficiles à résoudre. Cette difficulté semble mettre en lumière un fracturement collectif autour de ce qu'était une norme de marché. Le niveau risque exigé par le capitalisme du 19e siècle ont provoqué plusieurs controverses, surtout sur le décalage entre les lois et le soutien commercial. Vu l'importance de ce discours d'honneur tellement crucial pour juger de la moralité et même de la légalité des actions de chacun. Le but de ce chapitre est de demander ce qui est arrivé avec l'idée du risque, de l'honneur commercial et de l'action individuelle au moment de la sortie du capitalisme au début du 19e siècle. Enfin, j'espère que ça vous a donné une idée de mon projet et j'attends avec impatience vos questions et vos commentaires. Merci.
Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas eu le temps de lire le texte, on peut essayer de... Ouais, je suis aussi.
Justement, en fait, vraiment intéressé par vos opinions sur l'utilisation d'une micro-histoire comme une manière de rencontrer cette histoire. Je ne sais pas si ça marche, en fait, c'est juste une partie du brouillon, donc c'est pas le brouillon entier, mais en même temps, je me demande si ça vraiment... Si on trouve ça vraiment utile pour...
Ça fait plus.
Oui.
Est-ce que tu pourrais éventuellement résumer rapidement pour ceux qui n'ont pas lu le chapitre et peut-être en anglais si c'est plus facile ou certains de ceux qui ont lu essayent
de se coller.
Je pense
que
c'est un
problème
pour personne.
Voilà.
Ok, ça marche. This chapter takes place in 1830s Rouen. There is a bank that is run by I guess you could call him a nouveau riche. He was from peasant origins and he became the manager of an important bank. And he left much of the control of his bank to his nephew, who was named François Guyanais, who used the bank to further his own speculative interests and basically ran the bank into the ground behind his uncle's back. And then after the Revolution of 1830, which had frozen credit completely, the bank fell and the nephew took off. The creditors of the bank found that Charles Guyanais, the banker himself, had not done very important things such as making an inventory of his property. His wife had died, so his heir stood to inherit a large chunk of this property. His books were very badly kept, and his heir claimed a huge portion of the assets that would have gone to the creditors. the creditors were initially very angry and were going to charge Damiani the elder with banco de sang, which is that he was basically running the business not in a fraudulent manner but in an incompetent manner. But Damiani the elder said that the bank's fall was really the fault of his nephew, and that if they found his nephew and his nephew's friends, that they could get a larger share of the dividend. So the creditors then started to pursue the nephew and his business correspondence. Then this trial that took place in 1836, which was the beginning of a very long series of successive trials, placed Damiani, who was being charged with banco de sang, and then the rest of Francois and his correspondents were charged with banco de fraudulence. And the trial basically boiled down to these actions that Francois Damiani and his correspondents took. Were they fraudulent, or were they just, because the laws were very flexible in terms of what was considered just a normal speculative business practice, they didn't regulate it very well. Whether that was something they could be charged for, that they had just speculated it had gone badly, did that constitute a crime? And was it more that the creditors just wanted a scapegoat because they had lost a lot of money? There was one banker, Isaac Curé, who was involved with Francois Damiani and who was immensely wealthy, and if they could get to him, they could get payment for everything they had lost. So the trial began to kind of turn towards them, and they charged this was because someone needed to pay, and that was the only way to get something back from this. But the trial involved larger issues about this kind of old-fashioned merchant honor, which was based on a very risk-averse attitude. A commerçant did not take on risks that he couldn't fulfill, versus this kind of speculative fame, glory, and money all at one time attitude that Francois Damiani and his correspondents were seen as symbolizing. So in the end, Francois and his friends were found guilty. Damiani, rather amazingly, was not charged with bankruptcy. Which, if you consider it, this man did not keep books. He did not make an inventory. He had a great lawyer. He had Odinon Barreau on his side, who argued brilliantly that this man just didn't really have any economic agency over his bank at all. And that's how he got off. He was considered a good man because he had no control. But then after that, there were a series of lawsuits in which they tried to get to Isaac Curé, saying that because Isaac Curé had been involved with all of these friends of Francois Damiani, that he should really pay for the damages that are done. And so what I wish to do with this trial is then to just open this up to larger questions about how faillite, which is supposed to be a debtor who's unfortunate but honest, is judged, versus how bankrupt, which is, it involves at least negligence, and if it's fraudulent bankruptcy, involves right out stealing from your creditors in an age where it seems that business practices have leaped ahead of the capacity of laws to regulate them.